Bien, eh bien, écoutez, on va remercier les organisateurs et Serge Simon de nous avoir invités, Madame Olivia Mons et moi-même, à modérer cet après-midi. C'est vrai que ce sujet sport et maltraitance est un sujet qui nous interpelle beaucoup. Peut-être vous plus sur la maltraitance et moi sur le sport, donc comme ça on sera complémentaires. Je crois que c'est vraiment, pour ceux qui sont dans la salle, un sujet sur lequel on doit avoir une réflexion au travers de ce qui s'est passé ce matin, des témoignages qui ont été rendus, et j'espère cet après-midi maintenant de rapports un petit peu plus scientifiques et qui nous feront avancer sur cette réflexion. Donc on commence par... Monsieur Lyotard, c'est ça ?
Non, on va commencer
par vous.
Les comptes rendus de l'étude. Ouais.
D'accord, donc les comptes rendus d'études préliminaires, donc Sabine Afflelou et Greg Descamps, sur violences sexuelles en milieu sportif.
Merci. Donc je remercie le CAPS de m'avoir invité. C'est une blague.
C'est facile, hein ?
Oui. Alors, c'est facile parce que probablement mon propos ne l'est pas. En fait, je vais essayer de vous faire partager un cheminement qui a été parfois chaotique et qui a mené à la mise en place d'une étude nationale sur les violences sexuelles en milieu sportif, dont mon collègue Greg Descamps et moi-même sommes chargés auprès du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Alors, le cheminement, il n'a pas été simple, dans la mesure où ce sujet est tout à fait nouveau dans le champ de la psychopathologie sportive. Et on pouvait se demander dans un premier temps pourquoi s'intéresser à cette thématique et pourquoi le sport. Tout d'abord, devant l'absence de données dans ce domaine en France, la quasi-absence, puisqu'il y avait en fait une étude qui était celle de Greg, qu'il avait menée en région Champagne en 2006 et qui s'adressait à une population sportive étudiante et qui a révélé donc la réalité de ces violences, on a eu envie de la répliquer et de l'étendre à une population plus jeune. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc, ça a entraîné un questionnement relativement important autour des facteurs de risque potentiels, puisque quand on a voulu regarder à nouveau la formulation du questionnaire et le cadre dans lequel on allait intervenir pour cette étude, on s'est demandé ce qu'on allait rechercher, de façon un petit peu logique. Donc pourquoi le sport ? Est-ce que c'était quelque chose d'anecdotique qu'on avait pu observer ? Ou bien est-ce quelque chose de présent et reproductible? De quelle façon le sport contient-il des facteurs de risque ou pas? Et est-ce qu'il y a à l'intérieur de la sphère sportive une spécificité à ces agissements? On a donc recherché des facteurs de risque. Certains sont évidents, ils sont factuels. On a là une population concentrée jeune, d'adultes jeunes et d'enfants et de préadolescents, qui est captive, qui est vulnérable, comme d'autres milieux qui sont connus pour attirer d'ailleurs les délinquants sexuels. Donc le sport en est un. De surcroît, le corps est ici mis, le corps est mis en ligne de mire, il est exposé. Exposé au regard, mesuré, jugé, admiré, mais également, je dirais, légitimement touché. Hein, dans l'entraînement, bien souvent, les cadres sportifs touchent le corps des jeunes entraînés. Donc il y a là également quelque chose d'un peu plus spécifique au milieu sportif. Et puis il y a des facteurs de risque qui sont peut-être un peu plus insidieux et spécifiques au sport. Il y a ce positionnement singulier dont on reparlera tout à l'heure, dont Philippe Thiotard reparlera probablement, de l'entraîneur et qui a fait l'objet quand même du témoignage ce matin d'Isabelle de Mongeau, dont je regrette qu'il ne fasse pas partie de cette session, c'était prévu comme ça au préalable. Hélas, l'actualité sportive a eu raison de l'organisation de notre congrès, c'est normal. Il y a là une place très singulière de l'entraîneur. Il a le rôle de celui qui sait. Elle l'a dit à plusieurs reprises. C'était le seul qui pouvait me mener à la victoire. Et ça, c'est quelque chose de très présent dans l'esprit des jeunes et dans cette relation asymétrique de l'entraîneur à l'entraîné. C'est celui qui sait. Et donc, finalement, celui qui sait et qui légitime par ce biais de la performance beaucoup de comportements ou de dérives potentielles. C'est celui à qui on confie aussi. Les parents confient parfois des choses allant jusqu'à l'éducation, d'un rôle éducatif, mais beaucoup d'affect aussi. Elle en a parlé, de la question affective. Et puis des repères, c'est l'objet de notre colloque. Des nouveaux repères dans cette bulle sportive où le curseur est sensiblement déplacé dans pas mal de domaines. On va accepter là des choses qu'on n'accepterait pas ailleurs. Donc, quand cette relation asymétrique fait place à une relation d'emprise, eh bien, on a l'accès ouvert aux dérives potentielles dans ce cadre-là de violence. Ce n'est évidemment pas le seul cadre où les violences peuvent se produire en milieu sportif, mais c'en est un. Donc, la performance comme un alibi, j'en ai parlé. Les parents, on a abordé hier, notamment Grégory Michel, qui a beaucoup écrit, réfléchi là-dessus. On a abordé la question du syndrome de réussite par procuration des parents, qui projettent donc sur leur enfant des tas d'aspects qui sont les leurs, en fait, et qui peuvent aller jusqu'à devenir maltraitants, et sur cette pression qu'ils exercent, notamment sur leur enfant, les vulnérabiliser. Et souvent, dans les populations étudiées, les parents sont loin. Donc l'éloignement favorise également le risque et la vulnérabilité. La culture intrinsèque de certaines pratiques sportives, qui quand même véhicule de fortes notions autour de la misogynie, la banalisation de la souffrance physique, on n'a fait qu'en parler quasiment tout au long de ce congrès, et psychique également, c'est le culte de l'ascétisme, hein, il faut souffrir pour réussir, c'est comme ça que ça marche. Mais il y a aussi d'autres secteurs qui nous ont intéressés, comme la fête sportive, alors que ce soit autour de rituels initiatiques ou de fêtes autour de la victoire. Comment également l'alcool pouvait vulnérabiliser dans ce contexte-là certains individus et donc créer des situations propices aux dérives. Donc tous ces points-là auxquels on a réfléchi préalablement ont fait l'objet ensuite d'une traduction dans notre questionnaire et dans notre intervention, bien sûr. L'omerta sur le sport, évidemment, comme facteur incitatif. Et quand bien même la parole se libère, et ce matin Isabelle de Mongeau en a parlé très clairement, l'incrédulité de l'entourage. L'incrédulité de l'entourage, c'est quelque chose qui est décrit dans le domaine des violences sexuelles de façon assez fréquente. En effet, on peut se demander comment des parents qui, a posteriori, ont connaissance d'agissements d'une violence inouïe peuvent supporter cet aveu a posteriori, c'est-à-dire que c'est inconcevable, c'est de l'ordre de l'inconcevable. Et donc, quand on ne conçoit pas, il y a des mécanismes psychiques se mettent en place, de l'ordre du déni, ou d'autres natures d'ailleurs, pour masquer un peu la réalité et ne pas voir ce qui est là, sous les yeux, sous le nez. Voilà, Isabelle n'avait pas des parents malveillants du tout, hein, bien au contraire, c'est des parents très bienveillants dans une famille qui fonctionnait à peu près bien. Et malgré tout, ils n'ont pas pu, à un moment donné, être ressource, faire le relais de sa parole pour l'aider et lui permettre de la libérer, etc. Bon, donc là, on a quelque chose de très particulier dans le domaine des violences sexuelles. Et puis, un facteur de risque, c'est évidemment qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est-à-dire absence de tout dispositif de prévention en amont et évidemment d'accompagnement en aval. Alors, on a regardé ce qu'il y avait ailleurs, évidemment. Le préexistant, c'est là que ça n'a pas été simple du tout. Il y a des études dans d'autres pays qui montrent des résultats disparates, comme vous pouvez le voir. Alors là, ce sont quelques-unes, hein, évidemment. Il y a deux auteurs phares qui ont beaucoup participé à des travaux. Elles ont rendu un rapport en 2000 au Conseil de l'Europe. C'est Fasting et Breckenridge. Ces auteurs ont montré qu'il n'y avait pas de définition universelle du harcèlement sexuel. C'était une histoire assez compliquée, parce qu'évidemment, très subjective, d'une part au niveau personnel, de par l'impact que peuvent avoir les violences d'un individu à l'autre, selon son histoire, selon ses perceptions, mais selon sa culture également. Ces chercheurs ont montré également que d'autres chercheurs venant de pays différents adoptent des définitions différentes pour donc des agissements dans ce domaine-là, et que, par exemple, le terme de harcèlement sexuel était utilisé pour décrire un certain nombre d'agissements qui pouvaient comprendre l'abus sexuel, le harcèlement, enfin que c'était extrêmement flou. Donc on s'est retrouvé devant un certain nombre de définitions différentes, de mots pouvant dire certaines choses et d'autres, et finalement une confusion quant à la terminologie, pour nous, à la capacité d'élaborer quelque chose de clair sur ce dont on parlait. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de violence sexuelle ? Alors, pour exemple, ici la définition du CIO. Voilà, donc le CIO sépare clairement, d'un côté, le harcèlement sexuel. Et on voit bien que le harcèlement, ça peut être un comportement verbal, mais ça peut être aussi un comportement physique. excusez-moi. Envers une personne ou un groupe, intentionnel ou pas, donc on voit bien que là c'est vraiment la position de la victime qui est prépondérante, légale ou illégale, c'est l'abus de pouvoir et de confiance qui est mis au cœur de la relation. Dans d'autres pays, c'est la relation abusive qui est déterminée de cette façon-là, alors que l'abus va plutôt là être défini par une activité sexuelle sans consentement. C'est un des exemples, c'est pour vous montrer, il y en a beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres définitions qui s'entrecroisent et sont extrêmement finalement complexes pour finir. Il nous fallait clairement redéfinir, requalifier ce dont on allait parler, et ce que l'on allait proposer aux jeunes qu'on allait rencontrer. Dans notre questionnaire, il n'était pas question d'être confus, il fallait dire les choses pour ce qu'elles étaient, et éviter donc les biais relatifs aux études qu'on avait déjà regardées. Et puis, comment le faire sans se baser sur finalement les textes légaux qui nous ont servi de référence pour notre réflexion. Alors, je suis désolée, c'est très rébarbatif, hein, mais donc la loi distingue en fait les agressions des atteintes sexuelles. Les agressions sont des actes commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ce sont les termes de la loi, alors que les atteintes sont commises sans violence, contrainte, menace ou surprise. Voilà, donc on voit que dans les agressions, on a le viol ainsi que les tentatives de viol ou les conduites d'exhibition. Le harcèlement sexuel est inclus dans les agressions, alors que dans les atteintes, voilà, on a cette notion d'abus d'autorité et de dérive du lien entre un adulte et un mineur. Voilà. Et dans ce cadre-là, alors la loi prévoit des sanctions au-dessous de la minorité de 15 ans, qui est l'âge de maturité dite sexuelle, mais également de 15 ans jusqu'à 18 ans, notamment dans deux circonstances. Quand un adulte fait preuve d'un abus par rapport à l'autorité que lui confère ses fonctions, excusez-moi, et également quand il s'agit de groupe. Alors, une fois qu'on a regardé ce qu'il y avait dans la loi, au passage, la loi ne fait pas mention du terme « abus sexuel ». C'est une des raisons pour lesquelles on a décidé d'abandonner cette terminologie. Mais également pour des histoires un peu plus étymologiques sur lesquelles je reviendrai si vous le souhaitez tout à l'heure. puisque c'est une traduction, le mot abus sexuel est une traduction de l'anglo-saxon sexual abuse, excusez mon anglais, et en français ça pourrait donner l'impression qu'il y a donc un usage possible du corps de l'enfant, puisque c'est abuse, c'est éloignement de l'usage habituel. Donc c'est sur cette confusion qu'on a préféré écarter ce terme de nos nouvelles qualifications qui nous permettent donc d'intervenir dans l'étude. Mais c'est discutable, évidemment. Alors nous, on a, en référence aux textes légaux, voilà, là je vous propose un diagramme qui nous a permis donc de clarifier un petit peu ce qu'on entendait par violence sexuelle, qui est donc tout l'ensemble des agissements qui nous intéressent. Donc, d'un côté, on a les agressions, qui sont donc les agressions de la loi, le viol hein, et les attouchements. De l'autre, le harcèlement, donc, qui désigne les attitudes de chantage, invectives ou brimades à connotation sexuelle dans le but d'obtenir les faveurs de cet ordre. Et ensuite, les atteintes qui remplacent en fait le terme d'abus sexuel qui était entendu par la dérive de la relation de confiance. Donc c'est sans violence. Hein. Les atteintes sexuelles, c'est sans violence, menace hein, ou surprise. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc les trois grandes catégories, agression, atteinte, harcèlement. Voilà. Dans certaines études, le viol était un harcèlement, par exemple. Hein, faisait partie des éléments qui étaient étudiés comme le harcèlement. Ensuite, il nous a fallu donc construire le questionnaire. Alors, le questionnaire, 12 actes, 12 agissements ont été formulés. On s'adressait à une population a priori jeune qui pouvait avoir de 12 ans jusqu'à l'âge adulte. Donc, il s'agissait d'être clair dans nos formulations, précis. Alors Greg dira peut-être tout à l'heure dans quel but, hein, pour le recueil des données, il était important de désigner exactement chaque acte par un mot précis, clair et compréhensible par le jeune, également non choquant. Pour ça, on avait fait un petit travail préalable, notamment avec des intervenants dans les collèges et les lycées qui nous ont donné un retour de ce qui était entendu fréquemment dans ce genre de lieu, et donc on pouvait tout à fait reformuler. Et je laisserai Greg aussi expliquer le cadre dans lequel nous sommes intervenus pour distribuer ce questionnaire. Je voudrais plus précisément m'attarder sur quelque chose qui est une particularité de ce cas de psychotraumatisme psychique et auquel nous avons tenu dans notre questionnaire. Donc, par rapport à l'ensemble des questions qui étaient proposées, avez-vous été soumis ou pas à un type d'agissement qui va suivre? Les jeunes pouvaient répondre par non. Jamais. Oui, une fois. Oui, plusieurs fois. Et il y avait une case de qui était « je ne sais pas ». Alors, ce « je ne sais pas » peut paraître un peu étrange au premier abord. Moi, je tenais à l'expliquer et conclure là-dessus pour laisser la place à Greg ensuite sur les résultats. Le « je ne sais pas », je crois qu'Isabelle en a parlé très très bien ce matin. Le je ne sais pas, c'est la conséquence ou une possible conséquence du traumatisme psychique induit par la violence sexuelle. Cette violence laisse une marque extrêmement forte, une marque indélébile au plus profond du corps et qui va rester longtemps, très longtemps, enfermée. Elle peut prendre la forme de symptômes, elle peut se transformer, des symptômes qui masquent également cette blessure profonde et qui n'apparaissent pas toujours tout de suite, donc difficulté de faire le lien. Ces symptômes se répètent, sont souvent peu sensibles aux thérapeutiques qui sont mises en place. Par exemple, ça peut être une tendance aux conduites addictives, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, des conduites à risque, des conduites d'automutilation. Donc une psychopathologie importante et masquante qui peut éloigner de l'événement traumatique initial. Il y a également, sous l'effet de l'amnésie protectrice du fait de la violence de ces actes, une transformation possible, on l'a évoqué aussi ce matin, en troubles somatiques polymorphes. Donc c'est par exemple le syndrome du côlon irritable, toute une kyrielle de signes fonctionnels, des douleurs abdominales mal définies ou des douleurs pelviennes. C'est sur ces symptômes que, par exemple, Isabelle l'a mentionné dans son livre, mais beaucoup de jeunes qui ont été violentés, violés dans leur jeunesse, finissent par avoir en conscience, grâce à l'interaction avec un médecin qui révèle, ou à d'autres occasions, du traumatisme initial qui a disparu sous l'effet de l'amnésie protectrice du psychisme. Pendant l'acte, le processus de dissociation psychique, c'est ce qui permet finalement de se dissocier du fait de la violence et pour protéger l'éclatement finalement du psychisme et la mort du psychisme. Pour la survie, on se dissocie et on vit l'acte de façon désaffectée, presque automatique, ce qui permet de survivre, mais ce qui éloigne évidemment de la pensée rationnelle et des capacités de remémoration très claires de ce qui se passe par la suite. La perte des repères sous l'effet du grooming, ça aussi, ça sera largement évoqué tout à l'heure. Alors, je pense que tu apporteras des précisions. Tu m'as dit que ton intervention ne porterait peut-être pas que là-dessus. Le processus de grooming, c'est en fait ce conditionnement délétère qui est au cœur de la relation abusive. C'est-à-dire progressivement, l'athlète a de plus en plus confiance dans l'entraîneur. C'est celui, on l'a dit, qui représente l'autorité, qui offre aussi des récompenses qui sont tangibles et qui sont toujours liées à la performance, au bon résultat. Petit à petit, il donne l'impression de protéger l'athlète, de même qu'il est le repère, tout comme un père finalement, et il va manipuler de façon à appliquer un dosage de discipline et d'affection dont l'athlète petit à petit se retrouve dans une dépendance. Elle disait bien qu'elle ne pouvait pas faire autrement que d'être finalement dépendante à tout ce qu'il pouvait dire ou ne pas dire, de même qu'il la fascinait, de même qu'il fascinait ses parents. Puisque les parents étaient aussi sous l'effet. Et donc cette dépendance va à un moment donné, bien qu'elle soit tout à fait consciente de la part de l'athlète, il est dans cette relation d'emprise et il va vivre contre son gré la disparition progressive des barrières entre elle-même et l'entraîneur. Et c'est le moment où l'entraîneur en général peut abuser de sa proie sans avoir à faire usage de violence et la victime se retrouve finalement sans défense, mais également dans une relation extrêmement culpabilisante puisqu'elle ne se défend pas. Et donc elle a l'impression d'être co-responsable de la violence, de même que dans certains cas, et notamment pour les enfants, il y a une véritable sidération qui se joue sous l'effet de la peur. Elle l'a dit ce matin également, Isabelle, sous la peur des conséquences que cela pourrait avoir, l'aveu, ça peut être dislocation des familles, ça peut être également des considérations, c'est la fin de la carrière aussi, la fin de la carrière rêvée, présupposée. Donc toutes ces conséquences sont évidemment là pour sidérer la victime, l'empêcher de parler, et ainsi que toutes ces actions d'isolement que mettent en place encore une fois, certains entraîneurs ou certains adultes dans le cadre sportif. Il n'y a pas que les entraîneurs, il y a bien sûr d'autres personnes potentielles qui sont susceptibles d'abuser de la relation d'autorité et qui va mener à brouiller les pistes un peu. Brouiller, c'est le brouillard, c'est souvent ce qu'on entend de la part des victimes dans le cerveau, c'est le brouillard. Et donc engendrer de grandes difficultés de remémoration. Donc je voulais faire ce point un petit peu sur la psychopathologie pour laisser la place donc à Greg sur des aspects, on va dire, plus résultats, plus chiffrée et surtout sur des résultats qui sont intermédiaires, c'est-à-dire que l'étude que nous menons, donc qui est multicentrique, est en cours. Donc ce sont des premiers résultats, c'est juste à titre indicatif qu'on vous les donne, mais ce n'est pas les résultats finaux de l'étude qui seront disponibles en fin d'année 2008. Voilà, je vous remercie.
Bien, bonjour à tous. J'enchaîne après la présentation de Sabine, qui j'espère a su susciter un intérêt pour les résultats qu'on va vous présenter là maintenant. Comme on nous a donné l'autorisation d'annoncer les prochains congrès qui auront lieu à venir, je vous propose de faire une petite page publicitaire pour maintenir le suspense lié à ces résultats. Donc pour vous informer, tout d'abord pour les personnes qui en sont membres, nous avons renouvelé récemment le comité directeur de la Société française de psychologie du sport. Donc vous avez ici Monique Alès-Jardel qui est présente, moi-même au titre de secrétaire général, et puis Émilie Baudouin qui est également ici présente. On vous informe, on vous incite à vous informer sur le site de la Société française de psychologie du sport pour vous renseigner sur les prochaines actions que nous allons mettre en place au cours des années à venir. En tout cas, notre société accueille avec vraiment un grand plaisir le fait que des initiatives telles que le fait d'organiser ces journées puissent avoir lieu. Ça vient répondre à une très grande attente de ce que les praticiens du domaine de la psychologie du sport peuvent avoir dans ce domaine. Donc dans ce cadre-là, au niveau des interventions, des manifestations scientifiques qui vont avoir lieu prochainement, le prochain congrès qui pourra vous intéresser peut-être, je l'espère, aura également lieu ici à Bordeaux au mois de septembre. C'est le congrès de la Société française de psychologie. L'année prochaine, le congrès de la Société française de psychologie du sport aura lieu à l'INSEP, en région parisienne. Ça sera un gros congrès puisqu'il est associé avec celui de la FEPSAC, la Fédération européenne des psychologues du sport. Et puis enfin, dernière info que je souhaitais vous transmettre avant qu'on revienne aux résultats, l'ouverture dans notre université ici du DU de psychologie du sport que je coordonne. Et vous pouvez bien entendu me contacter pour les informations dont vous pourriez avoir besoin. Alors, revenons à cette étude sur les violences sexuelles. Ce que j'ai souhaité vous présenter là cet après-midi, je l'ai intitulé « Des représentations à la réalité » pour vous montrer comment la réalité de terrain qu'on a pu découvrir grâce aux interventions que nous avons pu faire dans le cadre de cette étude, vient mettre à mal certaines représentations qu'on peut avoir de ce phénomène très vaste que sont les violences sexuelles en milieu sportif. Alors, j'ai envie de penser, je ne suis pas le seul, et je pense que vous serez d'accord pour dire que la représentation majoritaire, l'image principale qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de violence sexuelle en milieu sportif, tout de suite, c'est le cas de figure, un entraîneur qui abuse d'une jeune sportive, qui la viole, etc. C'est la première image qui vient généralement à l'esprit chez les individus à qui on parle de ce phénomène. Alors c'est pas rien, parce que avoir cette représentation comme représentation majoritaire du phénomène, ça présuppose tout un tas de représentations associées. C'est-à-dire qu'on se dit que forcément l'agresseur c'est un entraîneur lorsqu'il y a des violences sexuelles en milieu sportif. Ça veut dire que forcément l'agresseur abuse également de son pouvoir pour parvenir à ses fins vis-à-vis de la victime. Ça présuppose également, dans la majorité des cas, tel qu'en général les individus l'imaginent, que l'agresseur est un homme. Parmi les représentations associées également, la victime est plus jeune que l'agresseur, elle est généralement perçue comme étant plus faible que celui-ci. Et puis enfin, l'image que l'on peut se faire de la victime, c'est que la victime est une femme. Donc voilà comment, à partir de ces représentations, on va voir comment les résultats qu'on a pu obtenir viennent confirmer certaines d'entre elles ou les infirmer. pour ce qui est des connaissances scientifiques actuelles, sur lesquelles nous nous sommes principalement appuyés. Il y a bien évidemment l'étude que j'avais pu mener avec Anne Joly il y a quelques années, qui était à ce jour la seule étude existante en France sur le sujet. C'est pour ça que c'est à nous que le ministère a confié ce projet de recherche. Nous avions pu mettre en évidence la distinction entre ce que nous avons appelé les violences verticales et les violences horizontales. Les violences verticales étant des violences dans le cadre desquelles l'agresseur a une position d'ascendance sur la victime. En général, du fait de son statut, par exemple statut hiérarchique au sein de l'institution, soit du fait de son pouvoir physique, il a plus de force que la victime, etc. A l'inverse, les violences horizontales, ce sont des violences qui ont lieu entre des personnes qui ne sont pas soumises à un rapport hiérarchique, à un rapport d'autorité, mais qui vont donc avoir le même statut. L'une n'est pas plus influente que l'autre, hein, parmi ces deux personnes, au sein de l'organisme dans lequel ou l'institution dans laquelle peuvent survenir ces violences. Ça, c'était pour décrire un peu les différentes catégories d'agissements qui peuvent être amenés à être répertorié. Et puis il y a bien entendu depuis la terminologie que Sabine Afflelou a pu proposer dans le cadre des groupes de travail qui ont été mis en place au sein du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, dans laquelle elle vous l'a présenté. Nous faisons la distinction entre donc les agressions, viols, attouchements réalisés en faisant usage de la force, de la menace, de la contrainte, les atteintes, autres forme de violence sexuelle réalisée sans faire usage de la force, la menace et la contrainte, et puis les harcèlements qui intègrent non seulement les brimades, les invectives, le chantage, mais qui intègrent également les comportements à caractère voyeuriste et exhibitionniste. Alors qu'au départ, si on recadre d'un point de vue législatif global, ce type d'agissement fait partie des agressions sexuelles. Nous, avec les groupes de travail au sein du ministère, nous avons réussi à montrer que la spécificité du monde sportif fait qu'on ne peut pas, dans le champ sportif, considérer de tels agissements comme purement des agressions, mais que bien souvent, ils interviennent plus dans le cadre d'un harcèlement répétitif. Autre type de connaissances que nous avions à notre disposition, les résultats de l'étude menée à l'époque à Reims avec Anne Joly, où là nous avions obtenu un taux d'exposition de sportifs qui faisait état d'environ 8% des sportifs qui déclaraient être victimes de violences sexuelles. Les filles un peu plus que les garçons, 10% versus 4%. À l'époque, nous avions utilisé un questionnaire dans lequel nous demandions aux sportifs d'indiquer précisément les différentes formes de violence auxquelles ils avaient déjà pu être confrontés. Les connaissances également que nous avions sur le plan méthodologique sont apportées par Assierno, qui lui a pu comparer l'effet des méthodes d'évaluation sur les taux d'exposition. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a montré, c'est que plus on proposait aux individus des items, des formulations très précises lorsqu'on nomme les agissements, plus les formulations étaient précises, plus les taux d'exposition avaient tendance à augmenter. Ce qui veut dire qu'à essayer d'intervenir sur cette thématique et à aller évaluer la prévalence des violences sexuelles en édulcorant un peu les formulations en disant « oh là là, on va faire attention, pas trop choqué, etc. » Eh ben, on se rend compte que si on reste trop général dans les formulations, les sportifs ne perçoivent pas assez la précision des actes et du coup vont plutôt avoir tendance à cocher non que oui. Alors, la façon dont nous sommes intervenus pour recueillir les données, c'est dans le cadre d'opérations de sensibilisation qui étaient organisées dans les établissements dans lesquels nous avons pu intervenir. Nous avons pu rencontrer directement les sportifs et parler et avoir des échanges et verbalisations avec eux, séances au cours desquelles nous avons fait passer un questionnaire qui a été adapté à partir de la première étude qui avait été menée. Alors, pour vous montrer des exemples de ce qui était évalué dans le questionnaire et des thèmes qui étaient évalués, il y avait par exemple l'attribution de responsabilité avec une question de ce type. Imaginons que vous deviez expliquer à qui ou quoi on peut attribuer une part de responsabilité dans la survenue des violences sexuelles en milieu sportif. On demandait, sur un total de 100 points, combien de points est-ce que vous attribueriez à la victime, à l'agresseur ou à la situation. Autre type de question, mais là, précisément les violences subies, nous avions 12 items pour lesquels nous demandions aux sportifs d'indiquer clairement s'ils avaient déjà subi ou pas, par exemple, quelqu'un qui vous promet des privilèges ou récompenses en échange de faveurs sexuelles ou qui vous menace de sanctions si vous refusez. Non, jamais, je ne sais pas, comme l'a dit Sabine. Oui, une fois, et oui, plusieurs fois. On va essayer d'aller plus vite. Bon. Le « je ne sais pas » était important parce qu'avec Anne Joly, on s'était rendu compte que parfois la réponse « je ne sais pas » arrivait à l'item « une tentative de viol échouée ». Des gens, à l'item « tentative de viol échouée » coche « je ne sais pas ». Alors ça peut paraître surprenant. Comment on peut interpréter ça? C'est clair que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à ce type de situation, il est capable de cocher « non ». Il n'a jamais été confronté à ça. Donc ça montre bien que si la personne coche « je ne sais pas », c'est qu'il y a forcément eu quelque chose et que pour toutes les raisons qu'a évoquées Sabine, la réponse « oui » n'arrive pas à être là. Nous évaluions également les contextes de survenue des violences, le lieu, le type de situation, le fait d'être seul, en groupe, etc. On posait des questions également sur l'auteur de l'agression, et puis également sur les stratégies de faire face et les répercussions. Pour ce qui est des sportifs qui ont été inclus dans l'étude, tout du moins pour ce qui est des résultats que nous vous présentons là aujourd'hui, qui correspondent aux résultats qui ont été diffusés à la presse par le ministère dans la conférence de presse du mois de février. 356 sportifs inclus dans l'étude, provenant de 18 disciplines différentes, très variées, avec des sports individuels, des sports collectifs, des sportifs âgés de 13 à 23 ans, avec quand même une majorité de sportifs âgés de 15 à 17 ans, 80% d'entre eux. 65% de garçons, 35% de filles, la majorité pratiquant environ 12-15 heures de sport par semaine, mais c'est, pour certains c'était très peu, environ 4 heures, pour d'autres nettement plus, 25 heures, en comptant les compétitions. Alors, les résultats concernant l'attribution de responsabilité. Concrètement, les sportifs considèrent que c'est la faute à qui si ce genre de phénomène survient. Alors, bien évidemment, bien heureusement, la majorité des sportifs attribuent la responsabilité à l'agresseur, soit totalement, en attribuant 100% de la responsabilité, soit conjointement avec la situation. C'est-à-dire, c'est rassurant. Ce qui ne l'est moins, c'est qu'il y a quand même environ 10% des sportifs qui considèrent que c'est la victime qui est majoritairement responsable de la survenue des violences. Et absolument pas l'agresseur. Ça, c'est un fait. On constate également qu'il n'y a pas de différence au niveau des représentations entre les victimes qu'on a pu identifier et les personnes qui ne sont pas victimes. La façon de penser, de se représenter les situations ne diffère pas. Alors, ça ne me concerne pas. Ça, c'était quelque chose qui était souvent dit directement par les sportifs que nous avons pu rencontrer. Ils ne se sentaient pas concernés. Et pourtant, on se rend compte que dans notre étude, on montre qu'il n'y a pas d'effet de l'âge, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les plus jeunes qui sont les victimes. Hein, toutes les classes d'âge figurent parmi les victimes. De la même façon, il n'y a pas d'effet d'intensité de la pratique sportive, c'est-à-dire que parmi les victimes, il y a tout aussi bien des sportifs intensifs que des sportifs qui ont une pratique beaucoup plus modérée, voire de loisirs. Il n'y a pas d'effet de sexe, et ça aussi, ça vient mettre en cause certaines représentations comme quoi c'est toujours les filles qui sont victimes d'agressions sexuelles. Il y a présence de garçons parmi les victimes. Alors j'ai mis dans des proportions équivalentes, c'est de l'ordre de 40-60, avec quand même une majorité de filles. Donc ça nous amène à conclure que tous les sportifs pourraient se sentir en fait concernés par ce phénomène. Pour ce qui est des violences subies, et donc déclarées par les sportifs. Sur les 356 sportifs, il n'y en a que 246, c'est-à-dire 69%, qui répondent non à l'intégralité des items du questionnaire. Ça veut donc dire qu'il y en a 110, soit 31%, qui déclarent en cochant oui, ou qui pensent en cochant je ne sais pas, avoir déjà subi des violences. La façon dont les violences se... Alors vous voyez ici, vous avez les agressions, c'est la catégorie minoritaire, un tout petit peu plus d'atteinte, tout le reste étant différentes formes de harcèlement. Et là, on a fait la distinction entre, d'une part, les brimades et le chantage, et de l'autre part, les attitudes de voyeurisme et d'exhibitionnisme. Vous voyez que c'est ça qui est véritablement majoritaire. Et surtout, il convient de signaler qu'un certain nombre d'entre elles sont des formes de harcèlement qui sont tout à fait banalisées par les sportifs. La banalisation a été évoquée dans d'autres interventions, et je conclurai là-dessus ensuite. Pour ce qui est des lieux de survenue des violences, pour ce qui est des indications qui nous ont été données dans les questionnaires, voilà les réponses les plus fréquentes. Vestiaire, internat, alors vous allez dire, bah oui, ça correspond exactement à ce qu'on pensait. Oui, sauf qu'il y a également chez l'agresseur, ça veut dire que des sportifs, entre guillemets, se laissent embarquer, se retrouvent chez la personne qui va les agresser. Ça veut donc dire qu'il y a toute une diversité des lieux de survenue. Ça n'est pas forcément que dans les douches, hein, contrairement à ce que certains peuvent penser. Dans quel contexte, à nouveau pour ce qui est des indications les plus fréquemment données, seul avec l'agresseur, en situation de groupe, dans le cadre d'une fête, voilà, quelque chose qui dérape, à mettre en relation avec le bizutage, et puis également l'entraînement. Alors... ça montre qu'il y a une variété des contextes de survenue, ça c'est évident, et ça montre également que le groupe n'est pas forcément protecteur. On a tendance à penser que c'est le fait d'être seul qui expose à des violences sexuelles. Or, ça n'est pas le cas. Un grand nombre de violences ont lieu dans un cadre collectif. Avec qui, c'est-à-dire qui est l'auteur des agissements? 90% des auteurs déclarés sont des hommes. Soit un autre sportif du même âge, un inconnu, un autre sportif plus âgé. Une réponse qui arrivait souvent, le fait que ce soit quelqu'un de connu, un ami, un copain, qui se livre à des agissements. Voilà. Pour signaler, ça apparaît nettement moins fréquemment, l'entraîneur. Hein, vous pouvez voir que le nombre de réponses est beaucoup plus faible. Ça montre en tout cas que la majorité des violences a lieu entre sportifs. Ce sont donc des violences horizontales et non pas verticales, et qu'il faut absolument sortir de la perspective que c'est les entraîneurs qui agressent les sportifs. Alors, des résultats édifiants, ça c'est les propos hein, qu'a tenu la ministre lors de la conférence de presse qu'on a pu réaliser. Alors c'est vrai que si on compare par rapport à l'étude de 2008, on passe de 8% à 31%. Il faut quand même rappeler que la première n'intégrait pas les harcèlements, donc c'est normal que là on ait un taux d'exposition qui soit beaucoup plus élevé. De la même façon, les conditions de passation n'étaient pas tout à fait identiques, mais il faut, et bien évidemment, alors ces résultats seront réactualisés fin 2008 lorsque nous rendrons le rapport final au ministère, mais il faut quand même avoir en tête que ces résultats sont conformes aux autres études internationales qui intègrent le harcèlement parmi les violences et qui ont eu une méthode à peu près similaire à la nôtre. Et puis enfin, pour terminer sur la banalisation, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a retenu, qui était pour nous le plus marquant. Alors ce phénomène de banalisation des violences, c'est-à-dire justifier qu'elles puissent avoir lieu, comme ça c'est pas grave, c'est quelque chose qu'on a surtout observé dans des groupes masculins. C'est vrai que là c'était un peu plus prégnant dans les groupes qui avaient un fonctionnement un peu à part. Également dans des contextes de défis entre sportifs. Ça nous a fait part de certaines situations du style « t'es pas cap, allez, faut le faire ». Voilà, des choses comme ça. Et puis alors pour ce qui est des propos donnés directement par les sportifs, c'est de toute façon, ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Donc voilà, c'est normal. Ça amène même chez certains sportifs l'idée que c'est celui qui ne se livre pas à ces pratiques-là qui n'est pas normal, ou celui qui refuse de se soumettre, c'est lui qui a un problème. Vous voyez comme quoi il y a un grand décalage de la norme. Et ça amène même certains à penser que, comme tout le monde le fait, on peut même obliger certaines personnes qui ne voudraient pas à subir ou à commettre des agissements. Et là, on est quand même très très loin des normes. Voilà, je vais m'en tenir à ça et on va pouvoir répondre à vos questions avec l'adresse si vous souhaitez entrer en contact.
Merci beaucoup. Ça passe ou pas? Oui, c'est bon. Ce que je vous propose pour qu'on respecte les temps et qu'il y ait à peu près un équilibre de discussion, c'est qu'on fasse les deux autres communications dans la foulée, qu'on puisse avoir une discussion globale à la fin. Donc, je donne la parole à Monsieur Stéphane Proya, qui va donc nous parler du crime sportif.
Tout à fait, oui, merci. Je voudrais tout d'abord excuser le professeur Yves Morin, qui a été retenu sur Lyon pour des soutenances de mémoire. Et donc, je veux vous parler, pardon, de psychanalyse. De psychanalyse, donc on va changer complètement de registre. Je vais rappeler quelque chose que vous connaissez tous, mais le présenter d'une manière différente. Je vais parler du complexe d'Oedipe, commencer par parler du complexe d'Oedipe, en faisant le présupposé que ce que vous savez du complexe d'Oedipe, c'est ce que vous avez lu sur Internet ou dans des magazines ou des revues donc de vulgarisation. Et donc le complexe d'Oedipe, le plus souvent, il est présenté uniquement du point de vue de l'enfant. C'est-à-dire qu'on parle des désirs de l'enfant à l'égard du parent de sexe opposé, tandis qu'en parallèle, donc, l'enfant éprouverait des sentiments de rivalité exacerbés vis-à-vis du parent de même sexe. Donc ce complexe d'Oedipe, le plus souvent, il est associé à l'âge où l'enfant est capable de reconnaître la différence des sexes. Et vous allez comprendre pourquoi je commence par parler du complexe d'Oedipe. Alors, je vais donner quelques exemples, des exemples tout simples. Très récemment, en allant donner un cours à l'université, donc j'étais arrêté en voiture à un feu rouge. Il y avait une école juste à côté, une école élémentaire, et une maman laisse son fils à l'école, et en lui disant au revoir, elle l'embrasse sur la bouche. Un autre exemple, là issu de ma clinique, de la clinique en cabinet libéral. Donc je suis depuis quelques mois un adolescent ou préadolescent, donc un jeune de bientôt 13 ans. Ce jeune préadolescent continue de monter sur les genoux de sa mère, de faire des gros câlins à sa maman. Et donc, j'ai expliqué à sa mère très récemment, il était peut-être temps de mettre un peu de distance entre elle et son fils. Alors bien sûr, je lui ai présenté les choses de manière assez soft et neutre, mais en lui indiquant aussi que le foyer familial risquait de traverser des périodes orageuses avec son fils, qui serait sans doute beaucoup moins sage qu'habituellement. Et donc, réaction spontanée, vous voyez, par rapport à ma mise en garde en disant qu'elle allait traverser une période difficile, réaction spontanée, « Oh, ça va être difficile pour moi. » Oui, c'est le cri du cœur de cette maman. Alors pourquoi je vous donne ces deux exemples ? Pour vous montrer, à partir du complexe d'Oedipe tel qu'il est évoqué de manière classique, qu'on occulte quelque chose de très important, c'est-à-dire le point de vue de l'adulte. Le point de vue de l'adulte. En aucune manière, je dirais que le complexe d'Oedipe ne survient comme ça, comme par enchantement, comme par une maturation biologique, ou arrivé à un âge où l'enfant est capable de reconnaître la différence des sexes, l'enfant aurait des fantasmes qu'il n'avait pas auparavant. Je me réfère en fait beaucoup à la théorie de la séduction généralisée de Jean Laplanche, qui est un psychanalyste éminent, puisque le titre de cette communication, elle m'est inspirée par le titre d'un article de Jean Laplanche qui s'intitule « Le crime sexuel ». Que nous dit Jean Laplanche ? Il nous dit tout simplement que l'initiateur du complexe d'Oedipe, c'est le parent et c'est pas l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne fait que répondre à une séduction qui provient de l'adulte et des messages communiqués par l'adulte. Alors ensuite, c'est vrai que la différence entre le normal et le pathologique, c'est une différence en quantité, ça c'est un vieux proverbe de Freud. Donc la différence entre le normal et le pathologique, c'est une différence en quantité, c'est-à-dire que par rapport à cette séduction, on peut tout à fait avoir de l'hyposéduction ou de l'hyperséduction. Alors bien sûr, comme dans beaucoup de domaines humains, Le meilleur, c'est le juste milieu, c'est-à-dire que l'enfant a absolument besoin, bien sûr, d'être suffisamment séduit par l'adulte, mais bien sûr, quand on bascule dans l'hyperséduction, telle que je venais de donner deux exemples, cette maman qui embrasse son fils sur la bouche, elle ne peut pas ne pas savoir que ce n'est pas un geste innocent, que la bouche, ce n'est pas une zone neutre, et qu'elle exerce là un acte. Qu'en psychanalyse, on parle d'incestuel. C'est un geste incestuel, pas incestueux, mais incestuel. Pareil pour le deuxième exemple que j'ai donné. On voit bien que ce cri du cœur de cette mère, c'est l'adulte qui est dans la séduction vis-à-vis de l'enfant. Alors pourquoi je commence par ce préalable ? Tout ça pour dire que le crime sportif, en fait, vient du fait que on se place uniquement du point de vue de l'enfant, je parle uniquement pour le sport de haut niveau, en proclamant que c'est l'enfant qui veut devenir un champion. C'est l'enfant qui a des désirs grandioses de réussite sportive. C'est l'enfant qui, tout petit, depuis tout petit, comme par enchantement, est animé par la volonté plus forte que tout autre de devenir par-dessus tout un champion. Donc, quand je parle de crimes sportifs, c'est pour dire que tout simplement, on occulte le fait que c'est en premier les parents qui veulent que leur enfant devienne un champion. Il est très rare dans le sport de haut niveau d'aujourd'hui, alors j'insiste aussi sur le fait que c'est valable sans doute pour le sport depuis une dizaine d'années, peut-être qu'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, avec la tendance à la spécialisation toujours plus précoce, bientôt, dans toutes les disciplines, autrefois, il y a quelque temps, on pouvait encore parler de sport à maturité précoce. Aujourd'hui, enfin, la salle est donc, vous êtes tous des spécialistes du sport, a priori. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que tous les sports deviennent des sports à maturité précoce. C'est-à-dire qu'on essaie de détecter toujours plus tôt les enfants et de les former pour qu'ils deviennent des champions. Donc, autrefois, on parlait essentiellement en termes de maltraitance, hein, je vais y revenir, de gymnastique féminine. C'est vrai que c'est un classique. Si on pose la question spontanément à quelqu'un, à votre avis, dans quel sport, dans quelle discipline sportive pensez-vous qu'il y a des abus ? Des abus, alors, des excès, pour être large. Spontanément, la plupart des gens répondent gymnastique féminine. Je fais l'expérience, moi, régulièrement, chaque semaine, que ce soit à l'université ou ailleurs, et spontanément, les gens ont toujours des exemples à renvoyer par rapport à la gymnastique féminine. Mais je dirais qu'on ne peut pas se limiter aujourd'hui à ce sport. Et donc, en parlant de crimes sportifs, je veux tout simplement souligner cette idée que j'ai déjà rappelée ailleurs, qu'on sacrifie une enfance. On sacrifie une enfance au nom des idéaux sportifs d'adultes. C'est-à-dire que, par rapport à la notion de maltraitance, ce matin, je crois que vous avez beaucoup parlé de la notion d'endurance à la douleur. Je parlerai, moi, de culture de l'endurance à la douleur. C'est-à-dire qu'on apprend très tôt à l'enfant à être endurant vis-à-vis de la douleur. Et c'est-à-dire qu'on apprend à l'enfant à nier les sensations douloureuses. C'est-à-dire que c'est l'extérieur, l'adulte, qui va dire à l'enfant, qui va énoncer à l'enfant à partir de quel moment il a mal. Et donc l'enfant est obligé de retenir sa plainte. Oui, c'est-à-dire qu'on est clairement là dans le registre de la maltraitance. Je dirais même que dans le sport de haut niveau, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'insiste, le sport de haut niveau aujourd'hui, que ce soit en France ou en Chine ou ailleurs, relève de la maltraitance institutionnalisée. Alors, attention, bon, ce maltraitance institutionnalisée, j'insiste sur le terme d'institution. C'est-à-dire que, pris un par un, les entraîneurs ne sont pas tous des pervers narcissiques, heureusement. Bien sûr, il y a des excès, vous l'avez souligné. Dans le cas d'abus sexuels, là, clairement, on se rapproche sans doute de la psychopathologie pure et on est sans doute confronté à des pervers narcissiques. Mais le plus souvent, les entraîneurs qui abusent de l'enfant, mais qui abusent justement pas sexuellement, sont plutôt dans le registre de la survalorisation de la rigueur, de la survalorisation des valeurs du travail au détriment du jeu, au détriment de l'aspect ludique. C'est en ce sens-là que je parle de sacrifice de l'enfance et de l'adolescence, c'est-à-dire que depuis la plus tendre enfance, depuis la petite enfance, en gymnastique, quand je questionne les gymnastes apprentis championnes ou championnes, à quel âge as-tu commencé la gymnastique ? Le plus souvent, c'est 3-4 ans. 3-4 ans. Donc, vous voyez, clairement, à 3-4 ans, on est dans le choix parental, on n'est pas dans le choix de l'enfant. Je vais vous donner un petit exemple personnel aussi, pour un autre exemple supplémentaire. J'ai inscrit mon fils l'année dernière dans un club de tennis. Bon, il a 10 ans. Réaction, il n'avait jamais touché une raquette, donc débutant. Réaction, c'est un petit club de village, réaction de la directrice du club, qui est très sympa, mais presque une réaction défensive en disant « Ah, mais attendez, vous savez que si vous voulez qu'il devienne un bon joueur de tennis, c'est trop tard. On les prend à 5 ans. » Vous voyez ? Sa réaction, sans doute, que c'est en réponse à ce qu'elle a l'habitude de rencontrer habituellement avec d'autres parents qui veulent à tout prix que leur enfant devienne un champion ou quelqu'un qui va atteindre le plus haut niveau possible. Et donc, dans cette logique-là, on inscrit l'enfant très tôt. Et là, donc, pour elle, 10 ans, c'est trop tard. Et donc, elle me mettait en garde, peut-être parce qu'elle avait peur de mon désir que mon fils devienne un champion. Vous voyez, ces exemples pour dire que la cause, alors, de cette souffrance qu'on impose à l'enfant, C'est tout simplement le désir de l'adulte, le désir de l'adulte. Et donc, quand je parle d'adulte, j'englobe bien sûr les parents et je ne parle pas seulement de l'entraîneur. Malheureusement, l'enfant pris dans les mailles de l'excellence sportive précoce, malheureusement, l'enfant est pris entre deux feux, c'est-à-dire qu'il est pris d'une part entre les désirs des parents et d'autre part les entraîneurs, le milieu sportif lui-même renchérit en fait sur les pressions parentales à l'excellence. Et donc l'enfant se retrouve dans une position de souffrance absolument impensable. C'est-à-dire que le paradoxe, par contre, qu'on observe, c'est que si vous demandez à l'enfant est-ce qu'il a envie d'arrêter, malgré ses souffrances, moi j'ai rencontré des enfants qui pleurent avant d'aller à chaque entraînement. Clairement, on peut parler de maltraitance. Si un enfant pleure, ne prend absolument plus de plaisir. Mais le paradoxe, c'est que ces enfants qui ne prennent plus de plaisir dans la pratique, ils ne veulent surtout pas arrêter. Ça se comprend aisément. Si depuis 3 ou 4 ans, ils ont perçu dans le regard des parents, c'est-à-dire de ceux qui comptent pour eux le plus au monde, s'ils ont perçu très tôt, très précocement dans le regard de ces parents, que pour exister à leurs yeux, ils ont besoin d'être les meilleurs, d'être toujours plus performants, d'en faire toujours plus, de travailler toujours plus, d'être toujours plus rigoureux. Je suis toujours frappé, moi, d'entendre ces adolescents apprentis champions parler de leur pratique, de l'école. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, le travail. C'est absolument étonnant. C'est vrai qu'on est presque dans une contre-culture par rapport à la société non sportive, au monde non sportif actuellement, où de plus en plus les adolescents veulent tout avoir tout de suite, sont dans une logique d'immédiateté, sont très peu tolérants vis-à-vis de la frustration. Dans le monde du sport, on observe absolument à l'inverse une très très grande tolérance à la frustration. C'est-à-dire que ces enfants, ces apprentis champions, s'ils n'ont pas réussi à atteindre les objectifs, ils vont travailler toujours plus, encore plus. Et de ce point de vue-là, donc, je parle, moi, d'alliance groupale perverse. Alliance groupale perverse, je maintiens, c'est vraiment dans les cas d'abus sexuels tels qu'ils ont été évoqués précédemment, qu'on peut parler de personnalité perverse narcissique. Mais ça reste des cas particuliers. Mais le plus souvent, on est confronté à ce qu'on pourrait appeler plutôt des caractères obsessionnels, c'est-à-dire que l'adulte nie le désir de l'enfant. Contrairement à la perversion, on n'est pas dans une utilisation du désir de l'enfant pour se caler à son propre désir personnel, on est dans la négation simplement du désir de l'enfant, sans utilisation, mais pour se coller à l'idéal sportif. Vous voyez, c'est l'idéal sportif qui fédère tout un milieu, toute une institution, et au nom de cet idéal sportif qui fédère toute l'institution, on en vient à une alliance groupale perverse, où en fait, on nie la douleur chez l'enfant, l'enfant n'a pas le droit de se plaindre, et l'enfant, en fait, il est dans le sacrifice de l'enfant, c'est-à-dire l'imaginaire, le jeu est absolument absent, c'est absolument frappant. Quand vous voyez ces enfants apprentis champions, ils n'ont pas le regard qui pétille, contrairement à d'autres enfants que je rencontre dans d'autres milieux que le milieu sportif, je suis toujours frappé. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, enfin, ça a été sans doute évoqué ce matin, pour devenir un champion, bien sûr qu'il faut avoir des qualités physiologiques hors normes, mais par contre, au niveau psychologique, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on observe une très très grande fragilité psychologique, une très très grande fragilité psychologique et une dépendance absolument totale. Et j'en viens aujourd'hui à faire l'hypothèse qu'au moment de l'arrêt de la carrière sportive, peut-être que ce que les sportifs ont à vivre, je ne dirais pas à revivre, mais à vivre, c'est l'enfance et l'imaginaire de l'enfance dont ils ont été privés. Vous voyez, c'est un paradoxe parce que, d'une certaine manière, ils ne sont gouvernés que par un seul idéal, c'est l'idéal du culte de la performance, c'est la performance qui est le plus important dans leur vie, ils y pensent jour et nuit, pas seulement eux, mais tout leur entourage, et s'ils arrêtent d'y penser, l'entourage est là pour leur rappeler qu'il faut qu'ils pensent à la performance. Donc d'une certaine manière, pour la psychanalyse, vous voyez, j'ai pas utilisé trop de concepts, on est dans une sorte de toute-puissance idéalisante, dans un moi idéal infantile, mais ouais, le paradoxe c'est que c'est un moi idéal infantile, et en même temps c'est pas des enfants. Donc, oui, l'hypothèse que je formule, c'est qu'à l'arrêt de la pratique, c'est là où, justement, il faut un accompagnement, parce que pouvoir vivre, pouvoir se laisser aller à convoquer un imaginaire ludique, quand on a 35 ans ou 40 ans, c'est pas si facile, et seul en tout cas c'est absolument impossible. Donc vous voyez qu'en parlant de crimes sportifs, bien sûr, je n'évoque pas ce qu'on retrouve à la une des faits divers de temps en temps. On est là dans des cas extrêmes, bien sûr, mais c'est vraiment au niveau symbolique, c'est le sacrifice de l'enfance, le sacrifice de l'adolescence au nom du prestige sportif. Et dans cette logique-là, je ne sais pas si vous avez parlé du dopage ce matin, mais ce que je propose, c'est de dire que le dopage, c'est une sorte de paravent. Il y a aujourd'hui une idéologie de l'antidopage où, pendant qu'on parle du dopage, on ne parle pas de tout ce qui se passe en termes de maltraitance auprès des enfants. C'est-à-dire que j'ai rencontré des enfants qui prennent des médicaments simplement pour dormir, même des antidépresseurs qui sont prescrits. Ils ne prennent pas des médicaments dans le but d'améliorer leur performance, mais simplement dans le but de pouvoir continuer, de pouvoir presque survivre psychiquement dans ce milieu terrible qui est presque un milieu militaire pour enfants, le monde du sport de haut niveau. J'utilise des termes très durs, mais à dessein, c'est-à-dire que quand je rencontre des apprentis champions ou championnes dans le cadre des bilans psychologiques, les plus performants sont les plus fragiles, ceux qui se rapprochent le plus de la psychopathologie. Quand vous avez des enfants qui, à 13 ou 14 ans, vous disent « Bah oui, moi, s'il faut m'entraîner 60 heures, pas de problème. S'il faut que je dorme pas, que je mange pas, oui, l'enfant qui est prêt à tout. » C'est pour ça que dans ces cas-là, on peut même abuser de leur corps. Je dirais qu'ils vont continuer. Vous voyez, ils sont emmurés, ils sont complètement repliés sur eux. C'est un paradoxe supplémentaire parce qu'aujourd'hui, le sportif est de plus en plus entouré. Vous avez toute une kyrielle de spécialistes. Maintenant, vous avez des biomécaniciens, des physiologistes, des préparateurs mentaux, des gens qui sont spécialistes de l'imagerie mentale, et j'en passe, des médecins du sport, etc. Donc, en fait, on pourrait tracer un schéma tout simple. Ça serait un cercle composé de tous ces spécialistes de la performance. Maintenant, vous avez les technosciences qui viennent participer à l'optimisation des performances. Et au centre, vous avez le sujet sportif. Donc vous comprenez bien que ce sujet sportif est soumis à une pression de plus en plus considérable. Il souffre. Non seulement il souffre, physiquement et psychiquement, et en plus, il n'a pas le droit de se plaindre. Et ensuite, vous voyez, dans les discours qu'on entend de la part du milieu sportif, on nous dit que c'est l'enfant qui veut devenir un champion. C'est le choix de l'enfant. J'insiste, ce n'est pas le choix de l'enfant. On a choisi pour lui. Le choix de l'enfant, ça serait si à l'adolescence, d'un seul coup, l'adolescent a une sorte de coup de foudre pour telle ou telle discipline. Vous voyez, un adolescent qui a essayé plusieurs disciplines, qui a pu essayer sans s'inscrire dans la répétition de génération en génération, et arrivé à 15 ou 16 ans, par exemple, c'est un exemple, le coup de foudre avec le rugby, ou avec le tennis, ou avec le cyclisme, je ne sais pas. Alors après, c'est vrai que dans certaines disciplines, aujourd'hui, le coup de foudre à 15 ans pour telle ou telle discipline, c'est pas possible d'atteindre le haut niveau. Mais donc, ça restait valable il y a encore quelques années. Mais alors, vous voyez, quand je parle de coup de foudre par rapport à l'adolescence, on n'est plus dans le registre de l'enfance. C'est-à-dire que ce que j'essaye d'ajouter, enfin, les questions que je me pose, c'est pourquoi, dans le domaine du sport, enfin tout du moins en France, dans le domaine de l'excellence sportive, on cultive ce qui est condamné en dehors du champ sportif. Le travail des enfants, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans le champ du sport de haut niveau? Clairement, on est dans le travail des enfants. Et en dehors du sport, en France, dans les pays démocratiques, le travail des enfants est condamné. Quand vous avez des jeunes sportifs qui s'entraînent 30 heures par semaine, ou 20 heures même, qui n'ont rien dans leur vie d'autre que le travail, c'est-à-dire le travail scolaire et le travail sportif, est-ce qu'on n'est pas dans le travail des enfants? Est-ce qu'on n'empêche pas un enfant de s'épanouir? Un enfant, il a besoin de s'évader, d'imaginer, de jouer. C'est-à-dire que trop souvent, au nom de cette idéalisation de la rigueur, on occulte complètement l'aspect ludique. C'est-à-dire que ce qui se crée des dommages, c'est pas la rigueur en elle-même, c'est sa sacralisation. Un peu comme la performance, je ne condamne pas la performance, mais son culte. C'est-à-dire que, vous voyez, d'ailleurs le titre de ce colloque est tout à fait adapté, justifié, c'est la démesure. On est dans la démesure. Donc, la démesure ou l'excès ou l'anormalité, c'est ça qu'on rencontre. C'est-à-dire que cette démesure, elle renvoie à ce qui relève de la pathologie. Parce que si on considère que la différence, je reviens à ce que je disais en introduction, si on considère que la différence entre le normal et le pathologique, c'est d'un point de vue quantitatif que ça se joue, dans le domaine du sport de haut niveau, on est dans le pathologique. On est dans le pathologique, et c'est ce qui se passe quand vous entendez des entraîneurs qui ne pensent qu'au travail, qui conseillent à l'enfant de s'entraîner toujours plus, d'en faire toujours plus, qui condamnent les moments récréatifs. C'est pour ça aussi qu'on rencontre beaucoup d'excès dès l'instant où l'enfant, l'adolescent plus exactement, l'adolescent a un moment, un espace récréatif. Là, il essaye presque inconsciemment de récupérer ce dont il a été privé pendant tous les temps d'entraînement. Donc on bascule, on est en fait dans une logique du tout ou rien. Et le tout ou rien, ça n'a jamais été épanouissant. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Donc on va terminer avec Monsieur Philippe Yotard, qui va nous parler de la relation d'emprise et traiter du cas particulier du conditionnement délétère ou du grooming.
Merci. Alors, le titre va être revu, mais vous verrez que ça, c'est pas important, ça n'a pas d'importance, parce que parler de grooming, c'était la demande de Sabine, et puis je n'étais pas tellement à l'aise avec ce terme qui vient de la littérature anglo-saxonne, et je préfère un terme qui existe en français, qui est la relation d'emprise, et qui permet d'expliquer beaucoup de choses, donc on va rester là-dessus. Alors, il y a des choses qui se recoupent, en fait. Stéphane a une approche psychologique, clinicienne. Moi, j'ai des approches plutôt liées sur le collectif, l'institution. Et en fait, il y a des choses qui vraiment sont en interaction. Et puis, je me suis interrogé sur quelque chose, finalement, aujourd'hui, qui permet, qu'on a entendu plusieurs fois. Ce matin, je crois que c'était posé à propos de l'intervention d'Isabelle de Mongeau. Pourquoi des parents acceptent l'inacceptable, ou Sabine l'a posé tout à l'heure également. Et puis, il y a des choses qui sont systématiquement renvoyées quand on travaille dans le domaine du sport de haut niveau chez les jeunes. Notamment, il y a une phrase qui est « faut savoir ce qu'on veut ». Il faut savoir ce qu'on veut, et là, je suis tout à fait en réaction avec ce que dit Stéphane, c'est-à-dire « faut savoir ce qu'on veut ». Et la question qui se pose, c'est d'avoir qui veut quoi, et pour qui, et à quel prix. Bon, si on va au bout de la question, on peut s'interroger sur qui veut quoi, pour qui, et à quel prix, et là, on peut interroger les parents, l'entraîneur, etc. Donc, l'intervention que je vais faire, il y aura deux temps importants. Un temps sur peut-être la question de l'exigence de performance rattachée à l'éthique sportive, mais l'éthique sportive que je vais vous décrire comme une éthique de la soumission. Et j'expliquerai pourquoi. Et puis, en essayant de voir ensuite quelles sont les conséquences. Donc, ça a rapporté à la relation d'emprise qui peut s'instituer entre un entraîneur et ses athlètes. Et c'est là peut-être que je suis en complément de ce qui a été dit, puisque effectivement, j'ai travaillé sur des violences sexuelles qui ont été exercées par des adultes entraîneurs sur des athlètes filles. Donc j'ai ni travaillé sur des violences de type homosexuel, masculine ou féminine, et ni sur des violences entre athlètes, ou à l'exception d'une affaire. Mais sinon, globalement, j'ai travaillé sur les relations entre les adultes, donc détenteurs d'une autorité, et les personnes qu'ils avaient sous leur autorité. Et puis donc, je vais donc pas tellement parler de violences sexuelles, mais plutôt d'aller du côté de ce que j'ai appelé la rationalisation instrumentale des maltraitances. C'est-à-dire que dans le système sportif, dans la recherche de l'atteinte du haut niveau, les maltraitances qu'on peut identifier comme telles de façon objective sont rationalisées de deux manières, de manière instrumentale, c'est comme ça qu'il faut faire, ou bien également de manière morale, c'est-à-dire que ça renvoie à toute la culture de l'apprentissage des façons de faire. Alors, « faut savoir ce qu'on veut », c'est une phrase qui revient souvent et qui nous amène à réfléchir, en tout cas moi qui m'amène à réfléchir, à une question qui se construit en miroir. Que peut-on supporter au nom de la performance? Que peut-on accepter au nom de la performance? Isabelle, ce matin, a montré qu'elle a pu supporter jusqu'au viol. Et elle l'a très bien expliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a l'impression qu'elle ne peut pas échapper dans cette configuration. La question qui est en miroir, c'est que peut-on imposer au nom de la performance ? Et j'utilise le « on » sciemment. Que peut-on imposer en tant que parent, en tant qu'entraîneur, etc. Et puis on peut s'apercevoir que si on va au bout de la logique, on peut aussi imposer des rapports sexuels au nom de la performance. Avec la justification qui vient, je pense notamment aux jeunes filles qui ont été mises enceintes par leur entraîneur pour bénéficier des transformations hormonales, etc. Bon, on est bien au nom de la performance, mais c'est quand même l'entraîneur qui possède le corps de la jeune fille. Pas en Russie. On parle des Russes, c'est toujours facile de parler des autres. Mais j'ai appris récemment des choses assez affolantes, enfin, moi qui m'intéresse de poser en tant que tel, je ne peux pas encore en parler, mais sur des jeunes filles de 14-15 ans en France, dans un sport spécifique. Donc des informations qui me viennent, qui sont très récentes, il y a une semaine, où j'ai appris que tout le monde le savait, en tout cas dans le sport, parce que ce n'est pas public, et qu'on ne pouvait rien faire. Donc, on viole les jeunes filles qui ne sont pas vraiment violées, puisqu'en même temps, vous voyez, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit dans la relation en vue de la performance. Donc, c'est très compliqué. Et donc, il n'y a pas de viol, puisque les jeunes filles ne vont pas se plaindre qu'elles ont été violées. Sauf qu'elles sont sexuellement mineures. Elles ont moins de 15 ans. Bon. Donc, à voir aussi avec l'INAVEM, notamment, l'aide aux victimes, parce qu'elles sont pas, elles-mêmes ne se considèrent pas comme victimes. C'est un vrai problème. Donc, vous voyez que là, que peut-on imposer au nom de la performance ? Ça amène à penser finalement cette culture qui a été présentée ce matin en introduction par Monsieur Simon sur la question de la culture de la normalité, la culture de la différence sportive dans l'accès au haut niveau. Et donc j'ai travaillé là sur cette question de l'acceptabilité par rapport au fait que finalement le faut savoir ce qu'on veut, c'est toujours apporté au nom de la performance ou au nom du sport. Et alors je vais aller vite parce qu'on a déjà abordé plusieurs fois, mais cette culture, elle s'intériorise. Un enfant qui commence à jouer au foot, qui commence à faire de la gymnastique, qui commence à courir, il est sur le jeu, il est sur le plaisir. Et c'est qu'en entrant dans l'institution et en étant donc, en apprenant l'importance que ça prend pour les adultes, qu'il va intérioriser l'ensemble des valeurs du travail, de l'effort, de la rigueur, et puis également la signification de la hiérarchie sportive. Ça signifie quoi d'être champion du département ? Quand on commence le judo, être champion du département, on s'en fout, on ne sait même pas qu'il y a un département, simplement on veut faire du judo avec les copains. Ça sert à quoi d'être sélectionné en équipe de ligue de rugby ? Bon, on commence après, donc à l'adolescence, effectivement, ça commence à être structuré, mais déjà c'est le résultat d'un effet institutionnel, et l'institution aussi bien sportive que parentale. Alors quand je parle de soumission et d'éthique de la soumission, c'est que rentrer dans le système sportif, notamment d'accès au haut niveau, c'est se soumettre à l'ordre sportif. Vous allez me dire, bon, c'est pareil pour toutes les structures, on se soumet à une structure, sinon on la quitte. Le travail de Loïc Vacan en boxe est très intéressant pour ça. Quand il reprend l'idée reçue selon laquelle la boxe aux États-Unis, il a travaillé aux États-Unis, à Chicago, c'est une façon pour les Noirs du ghetto de s'élever socialement. Bon, il dit oui, effectivement, il y a beaucoup de Noirs qui viennent du ghetto, qui font de la boxe. Sauf que ceux qui réussissent dans la boxe sont ceux qui sont capables de se soumettre à l'ordre sportif. Ça veut dire quoi ? Aux horaires de l'entraînement, aux exigences de l'entraîneur, à une discipline alimentaire, sexuelle, festive. Et que ceux-là, ce sont déjà ceux qui, au sein du ghetto, sont structurés socialement par la famille, par le fait que peut-être il y a le père qui a un travail et non pas les deux parents qui n'ont pas de boulot, etc. Donc il y a une structuration sociologique qui permet d'expliquer aussi pourquoi, au sein du ghetto, ça n'est pas tout le monde qui peut réussir, Mike Tyson étant l'exception. Celui qui a pu réussir malgré une succession comme ça de déterminisme qui pouvait penser que justement il ne pourrait pas supporter cet ordre sportif. Mais c'est aussi une soumission aux finalités bien sûr de l'institution, notamment à la finalité de performance. On se soumet à l'exigence de produire de la performance, à l'exception de tout autre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer, on peut plus jouer parce que, et ça a été montré à différents niveaux, c'est-à-dire que le sport réalise ce que j'ai appelé une économie de la différence corporelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les différences vont être structurantes du jeu. On apprend qu'on ne peut pas jouer avec qui on veut, mais avec qui on doit jouer. Si je suis un garçon, je joue avec les garçons. Si je suis avec une fille, avec les filles. Si je pèse 80 kilos, je joue avec les 80 kilos. Et si j'ai plus de 40 ans, je joue avec les vétérans. Bon. Donc vous voyez, tout ça, c'est structuré. Bon, à 40 ans, je sais que j'ai intérêt d'ailleurs à jouer avec les vieux, parce que sinon, je suis en difficulté. Mais il n'empêche qu'on apprend aussi que cette économie de la différence du corps, elle suppose un renoncement à un certain nombre de choses. Donc la domination de l'entraîneur sur l'athlète est légitime dans ce système. Elle est légitime et elle est légitimée par la volonté, une fois qu'on l'a intégré, ce système, de s'élever dans la hiérarchie sportive. C'est-à-dire que c'est plus le jeu seulement qui compte, mais c'est aussi le fait de réussir à gravir les échelons, à passer d'une équipe à l'autre, d'une sélection à l'autre, d'un classement à l'autre, etc. Et donc, l'exigence de soumission des athlètes à l'entraîneur, puisque là je vais revenir sur l'entraîneur et l'athlète, elle se fait au nom de cette légitimité de recherche de la performance. Mais, et c'est là que c'est intéressant, en tout cas c'est intéressant à poser, à reposer, la légitimité de l'entraîneur dans ce registre, elle est essentiellement technique. C'est-à-dire que l'entraîneur ne retient sa légitimité dans la relation qu'il a avec l'enfant, avec les jeunes, que par rapport à ses compétences techniques en vue de transformer la motricité de manière à la rendre plus performante en natation, etc. Alors, elle se justifie par une finalité instrumentale, cette relation entraîneur-athlète. Elle est légitime dans le système sportif, notamment d'accès au niveau, mais elle contient également des justifications en termes d'intériorisation d'une morale. Au fur et à mesure que l'entraîneur, et là, bon, je focalise sur la figure de l'entraîneur, mais c'est une figure, c'est pas un entraîneur là aussi spécifique ou une personne, mais au fur et à mesure que l'entraîneur transforme la motricité du jeune sportif, il transmet des valeurs. Il transmet des valeurs, notamment la valeur de la performance, du travail, de l'effort, etc. Certaines explicites, quand on dit il faut serrer les dents, il faut en chier, il faut que tu continues, ça paiera plus tard, etc. Là, on est dans l'explicite, mais il y a aussi tout un tas de valeurs qui sont implicites, qui peuvent se passer par le langage, mais aussi par un regard qu'on va détourner à l'arrivée d'une course parce qu'on n'est pas satisfait de la prestation de son poulain qui est allé au bout de lui-même, mais qui, au niveau du temps, est en dehors du temps qui avait été prévu. Il suffit de regarder quelques retransmissions de haut niveau en natation il y a quelques mois et quelques années pour voir des manifestations de ce type. Et donc, pour aller vers le hors norme, pour conduire l'athlète vers l'extraordinaire, l'entraîneur ne peut qu'aller aussi vers quelque chose qui est de l'ordre de la privation d'un certain nombre d'explorations motrices pour aller vers l'efficacité. Donc, cette exigence de la performance, elle se construit socialement. Il faut savoir ce qu'on veut, on ne l'apprend pas comme ça. On l'apprend aussi parce qu'il y a des influences institutionnelles. Et là, je vais passer donc de l'influence de l'entraîneur et l'influence institutionnelle à la délégation d'autorité. Il y a délégation d'autorité. On posait la question ce matin des parents. Mais les parents délèguent leur autorité à une institution, un CREPS, un pôle espoir, un centre de formation. Ils délèguent leur autorité parce que justement, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Et du coup, ils font confiance aux institutions. Ils font confiance aux institutions qui produisent des champions et de façon parfois très intéressante et très équilibrée. Et donc, il y a bien un lieu de l'éducation sportive. Il y a des lieux de l'éducation sportive où progressivement, la construction se fait par rapport à l'idée qu'on ne peut pas échapper finalement à son destin de sportif. Le pire étant peut-être d'être un jeune, le pire dans cette configuration, d'être un jeune qui présente un grand potentiel très tôt. Parce que du coup, il a à la fois la projection des parents, la projection de l'institution, du club, etc. Donc les filières d'accès au haut niveau vont entraîner, même s'il y a un gros travail qui se fait depuis quelques années, et ça, je pense que c'est important de le souligner, on l'a vu ce matin encore dans l'atelier qui était lié aux pratiques, même si les centres de formation, les pôles espoir, les CREPS s'interrogent sur les contradictions finalement, visant à ne pas tout mettre dans la valence sportive. Mais néanmoins, les jeunes qui rentrent dans ces filières, le projet reste quand même à prédominance sportive. Le but étant de passer de pôle espoir en pôle France, d'être sélectionné en équipe de France, etc. Même si à côté, on a quelqu'un qui dit « mais tu sais, il faut que tu travailles à l'école, si tu ne travailles pas, tu vas être viré du pôle ou du centre de formation. » Bon, donc c'est très compliqué, mais ça induit quand même cet apprentissage. Alors, comment arriver à la relation d'emprise ? Eh bien, il me semble que cette délégation d'autorité au sein d'un système qui est finalisé par la performance et qui justifie beaucoup de choses, si ce n'est tout, par la visée de performance, cette relation d'emprise, elle peut se construire justement par le fait que progressivement, l'entraîneur va devenir la figure de référence première. C'est l'entraîneur qu'on va voir. On l'a vu d'ailleurs plusieurs occasions, que ce soit ce matin ou dans des expériences que j'ai pu avoir, où souvent quand il y a un problème, un enseignant, une infirmière, quelqu'un qui est dans le cadre scolaire, va renvoyer le jeune garçon ou la jeune fille qui a un problème à son entraîneur. Mais va voir avec ton entraîneur, va en parler avec ton entraîneur. Donc on renvoie finalement aussi à cette figure de référence qui est finalement uniquement, et je le rappelle, une figure de référence au plan technique. Alors comment on peut arriver à la relation d'emprise ? Et là, j'en parle parce qu'il me paraît important, justement. C'est pour ça que ce matin, j'ai un peu réagi quand Isabelle parlait, quand il y a eu l'intervention du médecin conseiller de la région. Parce que le fait de dire qu'Isabelle a été violée parce qu'elle était dans une structure privée, c'est aberrant. Malheureusement, on sait que les violences sexuelles arrivent partout, quelle que soit l'institution, quel que soit l'encadrement, etc. On peut envisager des dispositifs qui vont atténuer les risques. Mais il y a des entraîneurs brevetés d'État violeurs, il y a des violeurs partout. Donc il ne faut pas dire qu'elle ne serait pas allée en privé, il n'y aurait pas eu de problème. La question dont je vous ai parlé tout à l'heure avec des jeunes filles de 14 ans, c'est fait avec des entraîneurs brevetés d'État dans des structures jeunesse et sport. Bon, donc là, il y a quelque chose à creuser. Hein. Mais c'est important parce que si on ne fait pas attention, on a tendance à identifier la figure du méchant, le méchant entraîneur pervers, ce que tu disais tout à l'heure. Et j'ai bien aimé justement cette idée de travailler sur l'alliance groupale perverse. C'est quelque chose qui se constitue parce qu'on est dans le groupe, parce qu'on partage tous plus ou moins les mêmes valeurs, et que finalement, on ferme les yeux ou on ne voit pas des choses qui peuvent poser problème. Alors, l'entraîneur, quel est le problème qui peut se poser? C'est que, en tant que figure de référence, peuvent se construire des relations dites d'emprise, c'est-à-dire des relations qui vont se construire dans la dualité. Ce sont des relations duelles. On est sous l'emprise de quelqu'un. On est sous l'emprise de quelqu'un vis-à-vis de qui, justement, on autorise un certain nombre de choses parce que c'est une personne qui compte beaucoup. C'est quelqu'un qui compte, notamment au plan sportif, c'est une grosse spécificité. L'entraîneur, c'est celui qui va transformer charnellement, concrètement, le corps des individus. Les jeunes athlètes reçoivent dans leur corps les effets de l'entraînement, les effets des consignes de l'entraîneur. Donc c'est quelqu'un qui a un effet positif que l'on ressent. C'est quelqu'un qui nous aide à aller vers, alors un désir partagé ou en tout cas un désir en construction, mais vers ce que l'on voudrait aller. Donc c'est quelqu'un qui agit sur le corps, et c'est là qu'il me paraît important de situer le fait que l'entraîneur ayant un pouvoir important, il est important de situer aussi les abus de pouvoir ou les abus de confiance potentiels. Dans les remarques qui ont été faites tout à l'heure sur l'enquête, je n'ai pas été surpris par le fait que les viols ou les violences peuvent se produire chez l'agresseur. Dans les histoires de vie ou les témoignages que j'ai eus de jeunes filles violées par l'entraîneur, c'était basé sur la confiance. Un exemple, la jeune fille à qui l'entraîneur, et là c'est là qu'on voit qu'on a de vrais pervers au sens psychologique du terme, l'entraîneur qui prévoit le fait qu'il va accueillir une jeune fille seule chez lui en lui remettant les clés du gymnase, en lui disant bah, tu lui viendras les porter chez moi, il y aura d'autres membres de l'équipe, on boira un coup, et elle se retrouve seule. Bon, là, on a bien affaire à un mécanisme. On peut dire, mais pourquoi elle est allée? Ben, elle est allée parce qu'elle a confiance. Elle a confiance en quelqu'un qui représente beaucoup de choses pour elle. Donc ça, c'est important à saisir. Et pourquoi elle y est allée? Ben, parce qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'elle ne pouvait pas y aller. Et même si elle se posait des questions, parce qu'en général, la construction de l'emprise se fait progressivement, eh bien là aussi, le rapport à la performance, le rapport au fait de dire, mais c'est l'entraîneur, si j'y vais pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va me garder dans l'équipe? Est-ce que je ne vais pas être puni? Est-ce que, etc., etc., ça pose un problème. Alors cette relation d'emprise, en quoi elle est spécifique? Dans le sport, elle peut être spécifique. Il y a trois critères qui sont habituellement identifiés pour qualifier une relation d'emprise. C'est l'appropriation, la domination et l'empreinte. Bon, la domination, elle y est de fait. L'entraîneur est dans une situation hiérarchique, légitimée par son savoir technique. L'appropriation, elle se fait même dans le symbolique. L'entraîneur, il parle de mon équipe, mon athlète, ma nageuse, mes filles, même dans le vocabulaire. C'est-à-dire que les athlètes eux-mêmes, symboliquement, appartiennent à l'entraîneur. Alors, bon, ça ne veut pas dire que parce qu'on dit mes filles, je vais les violer. On est d'accord. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui est de l'ordre de l'appropriation. Cette appropriation qui peut aller très loin, parce que forcément, quand il y a un résultat, quand l'athlète produit un résultat, l'entraîneur le vit d'une certaine manière comme son propre résultat aussi. Donc c'est, là aussi, il y a des choses à construire, mais bon, je ne vais pas développer. Et l'empreinte me paraît intéressante aussi dans le sport, parce que c'est dans le sport qu'on peut voir comment, par exemple, on peut marquer, on peut laisser une marque sur le corps de l'autre, dans la façon de faire, par exemple. Si je prends des entraîneurs, des exemples connus de couples entraîneurs-athlètes, quand on parle d'un athlète de haut niveau, il y a souvent l'entraîneur derrière qui est là et qui a imprimé sa marque. Alors là, je parle d'empreinte positive. Il a imprimé un style, il a su imprimer une façon de jouer, il a su adapter une technique à une morphologie, etc. Mais cette empreinte, elle consiste aussi dans la relation d'emprise à complètement rendre dépendante l'autre de l'influence qu'on va exercer sur lui ou sur elle. Isabelle l'a encore très bien illustré. Et alors, c'est vrai que j'ai pas travaillé il y a 10 ans, j'avais pas travaillé du tout sur une enquête comme Greg et Sabine l'ont présenté, mais à partir de quelques cas cliniques, finalement, de quelques études, des scénarios, des mécanismes, des relations qui se jouent, on voit les choses se reproduire. Quand Isabelle a sorti son bouquin, j'ai l'impression que j'aurais pu l'interviewer 10 ans avant. Pourquoi ? Parce que c'est pas un sport sur lequel j'avais travaillé. Ça s'est fait ailleurs, autrement, mais les mécanismes, la relation qui s'est constituée, la façon dont elle s'est retrouvée progressivement dans l'impossibilité d'échapper à la personne qui, pendant pratiquement 10 ans quand même, la violée, c'est quelque chose qui était identifié. Alors, je ne fais pas de glissement. Je ne dis pas que parce qu'il y a des maltraitances rationalisées au nom de la performance, il y a des risques de viol. Ce n'est pas ça du tout. Néanmoins, je vais maintenant me centrer sur les questions peut-être plus concrètes. J'enchaîne ? J'arrête ? Bon, mais j'arrête, moi, vous me dites. Hein. Ah ben, 2 minutes, alors j'arrête. Non, parce que là, je repars sur les rationalisations instrumentales des maltraitances. Donc, ce sera l'occasion peut-être du colloque qu'on fera au mois de septembre.
Merci beaucoup, Jean-Philippe. Juste 2 minutes avant de vous donner la parole pour vous rassurer. Tout ce qu'on a entendu depuis ces 2 jours et puis là encore aujourd'hui avec l'enquête qui n'est pas encore terminée et puis avec les études cliniques et sociologiques qu'on a pu entendre, ça vous dit, vous, dans votre quotidien, dans votre pratique, avec éventuellement des jeunes sportifs, que ça soit en haut niveau ou pas, et moi, qu'est-ce que je fais ? Sabine nous disait qu'un des facteurs de risque, effectivement, était qu'il n'y avait ni de dispositif de prévention, ni de dispositif d'accompagnement des victimes. Alors, C'était effectivement à peu près le cas, en tout cas pas de dispositif ciblé sur ces violences sexuelles en milieu sportif. Maintenant, ça existe. Donc d'abord, sur d'un plan de prévention, on est en pleine construction avec l'ensemble des acteurs que vous avez pu voir aujourd'hui. On est en pleine construction de dispositifs de prévention, notamment auprès de l'ensemble des encadrants jeunesse et sport sur de la formation initiale et continue. On est également sur des journées de sensibilisation, donc de prévention véritablement de jeunes sportifs dans des filières d'accès au niveau, dans des CREPS. Donc on a déjà fait une première journée de sensibilisation, une journée test qui va se généraliser sur l'ensemble des CREPS en France, donc pour leur donner ces notions de violence et comment ça fonctionne. Et puis on a d'ores et déjà un dispositif d'accompagnement des victimes. C'est un dispositif qui existe depuis 20 ans, en fait, qui est le réseau que je représente, qui est l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation. Il y a 150 associations en France d'aide aux victimes d'infractions, donc on est bien dans les violences, que ce soit des violences sexuelles ou d'autres, de maltraitance, et l'ensemble de ces associations est maintenant accessible via un numéro donc que vous voyez là, qui est le 08 victimes, et même en tant que donc toute personne qui s'estime victime peut avoir accès à ce numéro et de là une écoute par des spécialistes et ensuite une orientation vers une association locale, gratuite. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour vous, en tant que professionnel, on parlait tout à l'heure de victimes qui ne s'estimaient pas victimes. Mais vous, votre regard aussi, c'est de pouvoir vous alerter, vous questionner éventuellement. C'est la même chose, ce numéro permet aussi à des professionnels d'avoir une information complémentaire, éventuellement d'avoir d'autres relais, d'autres professionnels qui ont pu réfléchir de manière plus précise sur la question. Donc je vous invite vraiment à noter le numéro de téléphone, donc le 08 victime, c'est le 08 842 846 37, et que vous pouvez contacter et diffuser aussi. Il y a des petites cartes avec un dépliant là. Maintenant, n'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants.
Oui, j'ai suivi une sportive femme qui était membre d'une équipe de France et qui s'était déclarée plus ou moins homosexuelle pour avoir à éviter le droit de cuissage habituel des membres de l'équipe de France masculine. Et c'était très institutionnalisé finalement. Et je trouvais en vous écoutant que si elle avait beaucoup de ressemblances finalement avec la complaisance qu'a les institutions sur ces problématiques-là, la difficulté quand on tombe sur des pervers à les éliminer du système, finalement, à ce qu'on a pu retrouver dans l'Église catholique, et une certaine complaisance, une compromission face à ces actes qui sont au fond des délits.
Oui, ce que je dirais, que c'est, vous avez touché un point important. Il y a sans doute beaucoup de points communs entre ces trois grandes institutions que sont l'Église, l'armée et le sport de haut niveau.
Le sabre, le goupillon.
Et les puits et les crampons.
Donc, moi, je voulais poser une question à Sabine Affelot et Greg Descamps. Dans les questionnements que vous avez envisagés, le sport contient-il des facteurs de risque et existe-t-il une spécificité sportive de ces agissements? Est-ce qu'il ne vous semblait pas pertinent de confronter vos résultats avec une population témoin qui serait pas, qui ne pratiquerait pas de sport? Parce que peut-être que ces pourcentages-là, on les retrouve aussi dans la population générale. Enfin, pour répondre à ces questionnements, ça me gênait peut-être un petit peu de ne pas avoir de population témoin par rapport à ce que vous avez pu observer et qui interpelle.
Alors, effectivement, à ce jour, la seule indication que nous ayons au titre de comparaison entre des populations sportives et non sportives concernant ce phénomène, ce sont les deux rapports INSERM auxquels a participé Marie Choquet. C'est l'une des bases aussi qui nous a permis de montrer que le sport était, que le contexte sportif était en soi un facteur vulnérabilisant, dans la mesure où si on prend une tranche d'âge que sont les adolescents, je ne sais plus exactement si c'était 14-17, les adolescents de 14-17 ans sportifs sont plus nombreux à avoir déjà été confrontés à des violences sexuelles que des adolescents de la même tranche d'âge non sportifs. Donc ça, c'est un fait. On est parti de là aussi pour montrer l'intérêt du phénomène, comme Sabine a pu vous expliquer avant que le ministère nous contacte pour mettre en place ce dispositif. Nous avons essayé de le mettre en place par nous-mêmes avec toutes les difficultés que vous imaginez. Alors maintenant, c'est vrai que là, dans le cadre de cette étude, là, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire dans la mesure où ça ne correspondait pas aux urgences ministérielles. Mais ça serait bien entendu quelque chose de, comme vous le dites, de pertinent, parce que je ne suis pas sûr qu'effectivement, en termes de proportion, 31%, ce soit forcément beaucoup plus que dans un cadre... là, on est dans des contextes, pour la plupart des sportifs qu'on a vus, on est dans des contextes de vie collectif. Donc on peut tout à fait imaginer que ce même type de phénomène se produise dans des internats qui ne sont pas dans des centres de formation pour sportifs.
Exactement, comme vous montrez la diversité des lieux, la diversité... dans laquelle ça survient, enfin, soit collectif, etc. Ces éléments-là interpellent d'autant plus par rapport au groupe témoin, un groupe sociétal, communautaire, standardisé.
Alors, c'est quand même des choses sur les violences sexuelles dans la société. C'est que sur les données qu'on a, ça échappe à tout niveau social. toute classe d'âge, tout espace identifié. Donc il y a quand même des données. Alors, je ne sais pas, l'intérêt, ce n'était pas de, forcément de comparer là, dans l'étude qui est faite, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Sachant qu'il y a quand même des spécificités dans le sport, la dimension groupale, vous l'avez, collective, vous l'avez mise en évidence, mais il y a aussi des rapports au corps qui sont très spécifiques, c'est-à-dire que des adolescents n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver régulièrement dans des douches, dans des espaces où ils se changent, etc. Quand on sort du collège, on rentre chez soi, point. Il y a un rapport au corps qui est différent. Le rapport au contact, ça a été posé tout à l'heure. Le fait de toucher l'autre, c'est légitime, ça se fait. Et on sait que dans le jeu entre garçons, ça peut tout à fait se faire, ou on peut aller vers les humiliations sexuelles qu'on retrouve dans les cours d'école. Mais là, peut-être qu'il y a des configurations qui vont apporter une spécificité. Donc les spécificités, il y a un certain nombre qui sont listées, qui sont identifiées. Moi, je trouve qu'au contraire, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le sport. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'il y en a plus ou pas plus. C'est qu'est-ce qu'il y a là aujourd'hui. Et c'est ça qui me paraît intéressant.
C'est un état des lieux, si tu veux. C'est un état des lieux dans un endroit où il n'y avait rien d'explorer. Donc, pourquoi ne pas dire qu'il n'y en a pas, tu vois. Donc, il faut aller voir déjà s'il y en a ou pas. Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'il y a? De quelle façon ça se passe? Après, de dire s'il y en a plus qu'ailleurs et de le comparer, ce sera peut-être une phase ultime, enfin, une autre étape. Mais dans un premier temps, on avait déjà ce premier objectif de faire un premier état des lieux. Ce qui n'est déjà pas simple en soi, hein, parce qu'on se heurte, je ne suis pas du tout étendue là-dessus, mais à des résistances énormes, institutionnelles et autres, par rapport à la nature de ce dont on parle, mais aussi, et ça a été l'objet de ces deux journées, d'une résistance forte du monde sportif, hein, c'est-à-dire le monde sportif qui se surprotège. Donc on fait doucement, dans un premier temps, on essaie de rentrer déjà un petit peu dans l'institution, d'explorer, et ensuite on pourra peut-être affiner une comparaison avec des groupes témoins et donner de façon quantitative des choses plus fines.
Une question pour Monsieur Proya. J'étais un petit peu étonnée de la question, enfin de ce que vous avez posé comme les plus performants sont les plus fragiles psychopathologiquement, et je voulais savoir si ça voulait dire que lorsqu'on fait un bilan psychologique, on s'intéresse aussi aux performances. Ça m'étonnait aussi.
Non, ça c'est après coup, cette remarque-là, je l'ai faite parce que j'ai su après coup, après avoir effectué des bilans auprès de jeunes sportives, sans les avoir jamais vus bien sûr, mais ensuite en sachant que malgré les remarques que j'avais faites sur une très grande fragilité et souffrance psychologique, elles avaient été envoyées dans des pôles espoirs, etc. C'est celles qui ont le mieux réussi, les plus fragiles, les plus éloignées de la famille, c'est celles qui ont le mieux réussi. Alors c'est vrai que, mais ça rejoint tout à fait ce qu'a dit Philippe Lyotard aussi, d'une certaine manière, parce que plus fragile, ça sous-entend aussi qu'on se nourrit de ce que les autres nous demandent. Plus fragile, ça veut dire que le narcissisme est blessé, que peut-être qu'il y a une hyposéduction, et dans un espoir de réparation, on est prêt à tout. Donc on est prêt à tout accepter et on est plus facilement malléable. Et donc la relation d'emprise, elle va avoir d'autant plus d'impact avec quelqu'un de fragile. Et c'est justement dans ces cas où il y a une relation d'emprise que le sujet devient instrumentalisé, qu'il peut justement devenir performant, parce que maintenant vous avez toute une kyrielle de spécialistes, je l'ai rappelé, où on peut programmer à l'avance maintenant, et avec l'aide maintenant de préparateurs mentaux aussi, tout le but... et d'éliminer tout affect, toute émotion. Enfin, l'émotion, elle vient aussi après les épreuves. C'est si la victoire est là, si le podium est présent, qu'on va pouvoir partager des émotions collectivement. Mais les émotions, ce n'est pas des affects. De plus en plus, maintenant, vous avez des psychologues, d'ailleurs, qui travaillent sur cette question, de plus en plus, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le profil, entre guillemets, type du sportif de haut niveau, c'est celui qui n'a pas d'affect. C'est le normopathe, pour reprendre un terme de Marcel Ruffo. C'est celui qui se conforme parfaitement, qui est capable de maîtriser complètement tous ses affects. Enfin, les affects sont complètement gelés. Oui, c'est l'homme-machine, le robot qui n'a... Oui, si on observe aussi, si on écoute simplement les interviews, alors après, pour d'autres raisons, des sportifs d'autrefois et les sportifs d'aujourd'hui... Enfin, moi, j'écoute plus les interviews de sportifs d'aujourd'hui. On sait à l'avance ce qu'on va entendre.
Une dernière question.
Oui, on a, d'abord, merci à tous de cette super, toutes ces très très belles interventions qui sont très éclairantes et un peu effrayantes aussi. Ma question va sur le terrain de la violence. On a beaucoup parlé de la violence sexuelle. Est-ce que vous avez des données chiffrées des violences tout court, des violences exercées à titre éducatif, hein, comme on a pu le faire pour faire travailler un enfant à l'école, ou comme on peut le voir dans le milieu, par exemple, des musiciens de haut niveau qui ont un petit peu la même problématique. Donc, est-ce que vous avez des données chiffrées sur les violences donc non sexuelles? Et la deuxième chose, c'est que je suis un peu surpris de la disparition des parents dans le débat au niveau des abus. Alors, c'est peut-être parce qu'on a beaucoup parlé des abus sexuels. Mais enfin, les parents sont décrits comme des abuseurs importants dans l'éducation des sportifs, et ça rejoint justement le fait que le sport est devenu une case éducative comme peut l'être l'école, puisque les enfants travaillent, hein, les enfants travaillent tout le temps. Le travail est autorisé pour les enfants, mais c'est à l'école. Et il y a deux autres grands domaines d'éducation. Il y avait la musique, et puis maintenant il y a le sport, qui est devenu le troisième grand domaine d'éducation. Et est-ce que... voilà, moi j'ai deux exemples un peu d'amateurs. Hein. C'est, je me souviens de Jim Pierce, le père de Mary Pierce, qui battait sa fille quand elle perdait, tel point qu'il a été interdit de stade. Et je me souviens de la mère de Surya Bonaly qui s'interposait sans cesse dans les compétitions entre l'entraîneur. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la violence d'une part et puis le rôle des parents dans cette violence?
Oui, tu poses le problème de la maltraitance, enfin, plus large. Oui, alors ça, c'est... Et nous, effectivement, on a été amenés à étudier les violences sexuelles. C'était vraiment ce sujet très précis. Mais les maltraitances, bien sûr, elles existent et ça va faire l'objet d'un travail ministériel plus large qui va être lancé maintenant dans le cadre duquel vont s'intégrer les violences sexuelles. Donc il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de chiffres à te donner. Mais c'est une préoccupation, bien sûr, que l'on a. En ce qui concerne le rôle des parents, moi, je ne suis pas revenue parce que ça a été abordé hier, je crois que tu n'y étais pas, de façon précise, sur le syndrome, ce qu'on a appelé le syndrome de réussite par procuration, par analogie au syndrome de Münchhausen par procuration. Non, je te fais pas l'offense de te rappeler la définition. En tant que psychiatre, tu sais ce que c'est. Peut-être tout le monde est un petit peu au courant de ces choses un peu spéciales, non? Oui, le syndrome de réussite par procuration. Je ne sais pas si c'est intéressant de revenir, parce qu'on l'a déjà évoqué largement. Donc, c'est ses parents hein, qui, finalement, projettent sur leurs enfants donc leur désir de réussite, qui vont donc jusqu'à changer leurs habitudes de vie, pour certains changer de métier, deviennent les entraîneurs ou pas, déménagent, s'installent dans une autre ville. Toute la vie se réorganise autour de l'enfant dans l'objectif de la performance, bien sûr, de façon... ça peut aller jusqu'à la maltraitance, en effet, avec des brimades, des menaces. Et puis, de toute façon, ne serait-ce que la pression psychologique exercée par ce positionnement des parents envers l'enfant suffit pour créer, pour le vulnérabiliser, pour le rendre dépendant, pour le rendre fragile. Et c'est évidemment quelque chose qui est tout le temps présent quand on regarde tout le champ de la psychopathologie, dans ce champ-là également. Donc on va rechercher quelle est l'attitude des parents. Après, en ce qui concerne, alors je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas, mais tu posais la question de l'inceste, aussi des relations de violence sexuelle dans ce cadre-là. C'était pas l'objet de notre recherche. Donc, mais on sait que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, mais ce n'est pas une question que l'on a posée directement. Parmi les abuseurs, dans notre questionnaire, bien sûr, le ou la sportive peut répondre qu'il s'agit d'un des parents ou d'un proche ou quelqu'un de la famille. Mais voilà, pour l'instant, on ne l'a pas mesuré, ça ne sort pas.
Mais en l'occurrence, là, parmi les réponses qu'on a pu avoir sur les auteurs d'agression, les parents ou les parents d'autres sportifs ne figuraient pas parmi les réponses fréquemment données, mais ça figurait parmi les réponses possibles.
Jean-Philippe.
Oui, alors sur les violences, il n'y a rien, puisque déjà pour identifier des violences, faut identifier des violences. Si les parents considèrent comme non violent le fait qu'en gymnastique, on puisse écraser une jeune fille qui est en position d'écrasement facial et monter sur son bassin pour aller plus bas, etc., si c'est normal, si c'est pas violent, ben, on ne va pas l'identifier comme violence. Et c'est là le problème qui se pose. Je dirais, les parents, ils sont où? Ils sont complices. Ce qui me paraît intéressant, c'est des personnes, y compris de haut niveau, qui ont fait des carrières de haut niveau, qui disent, mais moi, je ne regrette pas ma carrière. Tu l'as dit ce matin. Je referai la même chose, malgré mes problèmes de vertèbres, etc. Mais je ferai tout pour que mon fils ou ma fille ne le fasse pas. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, qui interpelle. Maintenant, cet usage de maltraitance, en tout cas, moi, je considère ça comme des maltraitances. Dans certains cas, le fait de voir des jeunes filles ou des jeunes garçons qui pleurent, je parle des petits, hein, bon, qui pleurent avant chaque entraînement ou qui pleurent après l'entraînement et qui se font engueuler par les parents parce qu'ils pleurent, pour moi, c'est une maltraitance. Alors après, on peut discuter, on peut identifier les maltraitances. Est-ce qu'il faut appeler le numéro enfance maltraitée? Ben, peut-être oui. Pour simplement demander, est-ce que c'est normal que ma fille se fasse écraser par son entraîneur quand elle rate un double salto en sortie de poutre? Ben oui, c'est normal parce que c'est l'usage. Alors là, si on dit que c'est normal et que c'est l'usage, moi, en tant que parent, je dis à ma fille, on va faire autre chose. Mais si je me dis, ben, c'est normal, c'est l'usage, si tu veux des médailles, il faut passer par là, ben, faut savoir ce qu'on veut. Et on revient, finalement, à quelque chose qui est une forme de fatalité face à des traitements qui sont faits au nom de la performance. Dernière remarque là-dessus, vraiment, hein. J'avais travaillé il y a trois ans, sur l'entraîneur de gymnastique de l'équipe de Roumanie, féminine, de femme, qui avait dissous, il a dissous l'équipe de Roumanie de gymnastique, sous prétexte que les filles étaient trop libres, enfin, le libertinage n'était pas compatible avec la performance. Alors je me suis dit, tiens, des gymnastes libertines, ça m'intéressait. Parce que ça allait à l'encontre de mes représentations. Et non pas de mon intérêt. Et finalement, le libertinage, c'est simplement une jeune fille qui, pour ses 18 ans, était sortie, alors qu'elle était en stage national, était sortie boire un coup, elle est rentrée à 3h du matin pour fêter ses 18 ans, avec une autre copine. L'équipe a été dissoute. C'est un entraîneur qui, dans le même temps, avait des procès pour maltraitance par d'anciennes athlètes médaillées d'or aux Jeux Olympiques. Donc c'est pas des jeunes filles qui étaient dans le ressentiment parce qu'elles avaient été virées. Et finalement, il a démissionné parce qu'il s'est senti sali. Il a été rappelé par deux personnes pour reprendre ses fonctions, le ministre roumain des Sports et le président du Comité national olympique roumain. On a tout dit là.
Allez-y.
Je voulais juste rajouter un petit point psychologique par rapport aux violences possiblement subies par des enfants vis-à-vis des parents. C'est que si l'adolescent a subi quelque chose de l'ordre d'un traumatisme sexuel, il peut avoir tendance à l'avoir refoulé et donc à n'avoir aucun souvenir. Moi, je l'observe très souvent en consultation. Justement, les patients, les patientes qui ont subi des agressions, à partir de tel âge, ils ont un blanc sur l'enfance. 8 ans, par exemple, avant 8 ans, j'ai aucun souvenir. Avant 10 ans, j'ai aucun souvenir. Et parfois, au bout de 6 mois, au bout d'un an de consultation, les souvenirs reviennent. Et ce qui revient, c'est de l'ordre des abus. Et c'est pour ça qu'aussi, si on a véritablement subi un traumatisme sexuel, pour ne pas y penser, pour éviter de penser, l'exercice physique, c'est absolument excellent pour ne pas penser. Oui. Pendant qu'on court, qu'on fait du sport, qu'on se dépense, on ne pense pas.
Bon, ça, ce sera l'objet d'un autre débat, si vous permettez.
Excusez-moi. Alors
Bien, donc écoutez, je voulais vous remercier tous, remercier les orateurs. Désolé d'avoir été un peu celui qui a manié le chronomètre, mais il en faut toujours un. Et je donne pour terminer, conclure la parole à Serge Simon.
Merci Pierre. Écoutez, merci vraiment aux orateurs qui sont là, à tous les intervenants de ces deux journées. Il y en a encore beaucoup présents ici, puis ceux qui sont partis. Je suis très heureux de ce qui s'est passé. Je crois que le champ de la psychopathologie du sport... au vu de ces journées-là, est un champ extraordinairement riche parce qu'il est au confluent de problèmes aussi simples et aussi complexes que l'éducation. On parle beaucoup finalement de qu'est-ce qu'une éducation, jusqu'où va l'éducation, mais également de la santé, de la psychopathologie tout court, de l'économie, on n'en a pas beaucoup parlé, on l'a évoqué, l'économie du sport c'est aussi important, de la physiologie, de la sociologie. Donc on est un espèce d'épines irritatives de ce gros système qu'est le sport, qui sous-tend des tas de choses. Donc c'est un très joli champ à explorer, pluridisciplinaire, avec beaucoup de regards différents, des regards extrêmement techniques, quand on voit la physiologie de Martine Duclos, psychanalytique, je le redis, sociologique, psychiatrique. C'est éminemment passionnant. On a l'impression que c'est infini. En tout cas, c'est l'impression que ça donne aujourd'hui, parce que certainement on est au démarrage. Et j'espère que ce sera une très longue aventure. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, hein, notamment que j'étais un bon gros normopathe, ce qui quand même me réjouit énormément. Donc je vais immédiatement aller courir pour ne plus penser à tout ça. Voilà, je vous remercie énormément et à l'année prochaine.